qu'est-ce que le niveau de vie? Alors, le niveau de vie d'une personne, en fait, c'est le revenu disponible de son ménage. Le revenu disponible, c'est les revenus que les personnes tirent de leur activité professionnelle. Pour les personnes au chômage qui sont indemnisées, ce sont les allocations de chômage, les pensions de retraite pour les retraités, auxquelles on ajoute toutes les prestations auxquelles les personnes peuvent avoir droit, prestations familiales, minima sociaux, primes d'activité, par exemple, et duquel on retire les prélèvements, notamment l'impôt sur le revenu. Et ce revenu disponible, il est divisé par le nombre de personnes du ménage en tenant compte des économies d'échelle que procure la vie à plusieurs dans un même logement. Donc on arrive au niveau de vie, et vous voyez que pour estimer le niveau de vie, on a besoin de beaucoup d'informations. Le taux de pauvreté monétaire, en fait, c'est un indicateur relatif de pauvreté et qui dit quelque chose sur la distribution des niveaux de vie entre les personnes. Alors, par convention, le taux de pauvreté monétaire, c'est la proportion de personnes dont le niveau de vie se situe en dessous d'un seuil de pauvreté. Et ce seuil de pauvreté, il est défini comme 60% du niveau de vie médian, le niveau de vie médian étant celui qui sépare la population en deux, hein, ceux qui sont en dessous de ce seuil et ceux qui sont au-dessus de ce seuil. Et donc, ce seuil de pauvreté monétaire était de l'ordre de 1100 euros pour une personne seule en 2019. Première estimation que l'INSEE a publiée avant-hier, c'est une stabilisation entre 2019 et 2020 des inégalités de niveau de vie qu'on peut mesurer au travers de plusieurs indicateurs et du taux de pauvreté monétaire, donc qui s'établirait, et je mets le conditionnel, en 2020 à 14,6% de la population comme en 2019, c'est-à-dire 9,3 millions de personnes. Quand même un chiffre important, hein, en situation de pauvreté monétaire en France. Alors, pourquoi une première estimation? Parce qu'en France, en fait, pour avoir le taux de pauvreté et les niveaux de vie des personnes, il faut attendre en fait un certain délai. Et en gros, c'est 20 mois après la fin de l'année. Par exemple, là, en octobre, l'INSEE a publié le taux de pauvreté et les inégalités de niveau de vie en 2019. Et pourquoi il faut attendre ce temps-là? C'est parce que l'INSEE a fait le choix, mais d'autres pays aussi, à la fois pour des raisons vraiment de qualité des données, mais aussi de coût, de s'appuyer sur des données administratives et notamment les données fiscales des revenus déclarés aux personnes, notamment au titre de l'impôt sur le revenu, des données sociales aussi, hein, sur toutes les prestations qui peuvent être perçues. Et ces données, on les a pour un échantillon vraiment important d'individus et de ménages qui ont répondu à une des grandes enquêtes de la statistique publique, l'enquête emploi, qui permet de connaître plein de caractéristiques sur les ménages, la composition familiale, la situation des personnes par rapport à l'emploi. Donc ça, on ne peut pas l'avoir là pour l'année 2020. Alors qu'est-ce que, et c'est un délai qui est long, ce qui peut expliquer aussi qu'on attendait le chiffre et que d'autres chiffres ont pu circuler. Ce que l'INSEE fait depuis 2015, c'était une expérimentation au départ, mais qui a été probante, donc qu'on réalise tous les ans. C'est que, bah voilà, c'est à cette période de l'année, donc c'est 10-11 mois après la fin de l'année, à partir d'un modèle de micro-simulation qui est réalisé conjointement avec l'adresse et le service statistique ministériel du ministère de la Solidarité et de la Santé et avec la CNAF. En fait, on prend le dernier dispositif dont je vous ai parlé qui donne les estimations définitives, qui s'appelle l'enquête revenus fiscaux et sociaux. On prend les dernières données dont on dispose et on les fait vieillir, on les fait évoluer avec l'aide d'énormément d'informations dont on dispose, hein, l'évolution de la population, des situations sur le marché du travail, mais aussi grâce à des données de l'administration fiscale, des caisses de sécurité sociale, etc. On a des indicateurs sur l'évolution de différents types de revenus et on en déduit une distribution des niveaux de vie en 2020 par rapport à laquelle on est ensuite en mesure d'estimer la proportion de personnes pauvres. Donc c'est un exercice qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant. On a des petits écarts, hein, je ne le cache pas, hein, sur le taux de pauvreté. L'année dernière, on avait estimé en première estimation un taux de pauvreté monétaire en 2019 qui s'est écarté de 0,1 point de l'estimation définitive. Mais quand on prévoyait une baisse, on avait une baisse. Quand on prévoyait une hausse, on avait une hausse. Alors cette année, l'exercice, il est un petit peu plus fragile que les autres années. Ça, il faut en être conscient, hein, et on le dit en toute transparence, dans la mesure où il y a eu quand même des chocs vraiment très importants sur les revenus des personnes en 2020, différents selon les catégories de ménages, et qu'on a dû, on a repris la méthode qu'on utilise d'habitude, mais on a dû aussi l'adapter pour simuler ce qui était nouveau, l'activité, le dispositif d'activité partielle.